Je suis avec donc Didier Belli, directeur de CHR Consulting. Bonjour Didier.
Bonjour.
Voilà. Et je suis également avec Christophe Yann, directeur de Action Conseil Formation. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Didier, bonjour Xavier.
Donc bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de recrutement. Alors c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un petit moment. Je ferai une petite anecdote tout à l'heure. C'est un sujet où si on entend les médias, si on entend même les réseaux sociaux, moi j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sous nos publications en ce moment. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de guerre entre les salariés, entre les patrons et puis tout ce monde autour de la restauration. Mais en fait, c'est tronqué. Moi, je pense que c'est une image qui n'est pas fidèle à la réalité. C'est une minorité, finalement, qui s'exprime. Souvent, on entend beaucoup plus les mots de colère que des mots de solution, de gens qui vont bien. Et en fait, nous, notre réalité, celle que vous allez décrire, Christophe et Didier, c'est justement des solutions qui fonctionnent, des réalités complètement différentes. Et c'est vrai que nous, depuis maintenant, ça fait presque 20 ans qu'on travaille ensemble. Il y a un maître mot qu'on a toujours eu, c'est mettre l'humain au cœur de toute chose. Et c'est vrai que dans toutes nos actions, y compris pour le recrutement, c'est une valeur essentielle. Donc je voudrais que vous parliez, messieurs, justement de ce qu'on voudrait proposer au monde de la restauration pour réconcilier à la fois les entreprises, les patrons et les salariés, le personnel, qui se ferait soi-disant une guerre. Et en tout cas, c'est vrai que de temps en temps, il y a de la guerre. Donc qu'est-ce que nous mettons en place? Comment vous voyez les choses? Je vous laisse commencer, je ne sais pas si tu veux commencer Didier ou Christophe, je vous laisse la parole. Merci messieurs.
Moi je pense qu'avant d'apporter des solutions, il faut déjà dresser un constat de l'existant. Le constat de l'existant c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on rencontre, aussi bien Christophe que moi-même, quand on va chez les professionnels? On a plusieurs cas de figure. Moi j'ai des clients qui n'ont absolument aucun problème de personnel. Mais quand je dis aucun problème de personnel, ça veut dire qu'ils ont du personnel qui est fiable, du personnel qui est stable, qui n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et bizarrement, ils ne sont pas nécessairement payés plus cher qu'ailleurs. Alors, à quoi tient cette différence? Cette différence tient surtout dans les méthodes de management. Je fais partie d'une génération, hélas, qui a connu ce qu'on appelle l'apprentissage ou le management dur, c'est-à-dire ça marchait à coups de pompe dans l'arrière-train et si on n'était pas content, on allait voir ailleurs. Il y a beaucoup d'exploitants d'aujourd'hui qui sont les héritiers de cette philosophie néfaste et qui s'étonnent aujourd'hui de ne pas pouvoir conserver leur personnel. Donc, je dirais qu'il faut avant tout, pour les entreprises qui n'arrivent pas à trouver, à recruter et à conserver du personnel, il faudrait déjà qu'ils arrivent à se remettre en question, en se posant les bonnes questions. Est-ce que je suis un bon patron? Et c'est ça la question, parce que être un bon patron, c'est pas forcément avoir une entreprise qui tourne bien. Je dirais même au contraire que moins on est un bon patron et moins notre entreprise tourne bien. Et plus on fait des efforts dans le management, plus on arrive à motiver nos équipes et plus l'équipe va être entraînée dans un but commun qui est de faire travailler, de faire tourner cette exploitation et donc de dégager des profits. Il ne faut quand même pas oublier que le but premier de toute exploitation, c'est de gagner de l'argent en prenant du plaisir. Mais il faut que le patron prenne du plaisir et que les employés prennent du plaisir aussi. Donc si on n'arrive pas à faire ça, j'ai peur qu'il y a des entreprises qui continueront à avoir des problèmes. Il y a eu un sondage, je crois, en novembre et décembre 2022, un sondage qui a été fait par l'UMI, où le salaire arrive en 19e position des préoccupations des salariés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les salariés d'aujourd'hui, quelles sont leurs attentes? Leurs attentes aujourd'hui, c'est de bien sûr de prendre du plaisir, c'est d'avoir de la reconnaissance dans le travail qu'ils produisent tous les jours, c'est d'avoir la possibilité de conserver une vie sociale. Historiquement, dans la restauration, on travaillait avec des horaires à coupure. Il faut arriver à comprendre que ça, il y en aura de moins en moins, inévitablement. Il va falloir adopter des nouveaux systèmes, des nouvelles méthodes de management des horaires du personnel. et pour faire travailler les gens ou le matin ou le soir, ou alors les faire travailler sur 4 jours au lieu de 5 jours, voire 5 jours et demi, parce que bien souvent il y a 1 jour et demi de repos plus une demi-journée quelque part quand on a le temps. Ça c'est la réalité. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise qui tourne très bien. Ils font 800 000 euros de chiffre d'affaires, qui s'organise pour avoir, de façon régulière, à peu près une fois tous les 2 mois, ils arrivent à organiser les plannings pour que le personnel ait 4 à 5 jours d'affilée de repos. Et ça fonctionne très bien. L'entreprise gagne de l'argent, ça fonctionne très bien, le personnel est motivé, il a envie de travailler. Donc, je dis pas que c'est duplicable dans toutes les entreprises. Je dis simplement qu'il faut arriver à réfléchir à ce genre de choses, et puis arriver à réfléchir également au fait que d'embaucher des gens qui ont un savoir-être. Il y a de plus en plus de clients qui se plaignent de l'incompétence entre guillemets du personnel de salle. Pourquoi ? Parce que on a besoin de quelqu'un, il y a quelqu'un qui se présente, on l'embauche et on verra bien plus tard. Il faut arriver à embaucher les gens, à prendre le temps d'embaucher les gens. Embaucher un salarié, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coin de table entre la poire et le fromage, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a des organismes spécialisés et il faut plus les embaucher sur leur savoir-être, parce que le savoir-être, ça s'apprend pas. On n'apprend pas à quelqu'un à être aimable, on n'apprend pas à quelqu'un à être souriant, on n'apprend pas à quelqu'un à aimer les gens, alors qu'on peut très bien lui apprendre à porter une assiette, à servir un client ou à débarrasser une table. Voilà, il y a des choses qui s'apprennent, des choses qui ne s'apprennent pas. Mais il faut aussi que les employeurs prennent le temps de former ces nouveaux embauchés et que de telle façon qu'on cherche la satisfaction du client, qu'on leur inculque la satisfaction du client par la notion de service. Voilà, je pense que Christophe peut compléter mon propos. On a des expériences qui sont différentes, mais qui se ressemblent.
Ouais, je dirais qu'elles se ressemblent étrangement. Même si des fois le point de vue peut sembler être différent, c'est souvent les mêmes choses. Oui, moi je reviendrai juste sur le fait qu'effectivement, il faut passer... je le disais encore cette semaine à un patron, je disais il faut passer par une société de recrutement qui a l'habitude, parce que pour bien recruter aujourd'hui, et effectivement ça passe aussi par faire comprendre à la personne qu'on recrute qu'on est dans le bon établissement, qu'on est avec le bon patron. Et effectivement aujourd'hui les patrons devraient, je pense, se remettre un petit peu en cause et se dire que qu'est-ce que veut dire être un bon patron ? Parce que effectivement, parfois les gens me disent bah oui, on n'arrive pas à recruter, mais souvent quand on arrive à discuter avec ces gens qui n'ont pas voulu rester, souvent ils me disent bah oui, mais non, on n'est pas reconnu par le patron, il y a pas de communication, le patron a pas, enfin on n'a pas l'impression que le patron a de l'empathie pour nous, etc. Bon. Et c'est ça, un patron devrait se remettre en cause déjà dans un premier temps et se dire on va déjà s'observer. Je vais moi-même en tant que patron, je vais essayer de devenir un bon patron, d'accord ? Donc je vais développer mon leadership, je vais développer ma communication, je vais être dans la reconnaissance des efforts de mes salariés. Je vais le dire, je vais être suffisamment humble pour reconnaître mes erreurs, etc., etc. Bon, une fois qu'on a ça, c'est ce cahier des charges qui est assez simple finalement pour le patron, on va passer par une boîte de recrutement, et là à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir des avantages qui sont liés à ce recrutement. Donc moi j'en vois 5 que je vais vite fait vous citer. C'est on va, grâce au recrutement, on va améliorer la performance bien sûr, on va réduire des coûts parce qu'à force de recruter ça nous coûte fort cher. Et quand on n'est pas sur les bonnes personnes qui partent régulièrement, à la fin, ça finit par coûter très très cher. On va choisir une cohésion d'équipe, donc on va choisir des profils qui vont correspondre avec le profil de l'équipe. Je trouve que ça, il y a un renforcement de la marque employeur Il y a aussi, j'allais dire, bon, il y a plein d'autres avantages, mais bon, grosso modo, c'est ceci, j'allais dire. Et puis, bah, celui qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire, il faut qu'on soit dans la bonne maison avec le bon patron, le bon esprit d'équipe. Voilà. Donc, on peut développer maintenant, je pense, Didier, on peut développer un peu tous ces avantages d'un bon recrutement. Et pourquoi, ben, j'allais dire, moi je te poserai la question carrément, je vais me faire l'avocat du diable, c'est pourquoi on est obligé de passer par un recrutement, bien que je viens de l'évoquer, mais pourquoi on est obligé de passer par un recrutement? Pourquoi on ne pourrait pas le faire soi-même?
Alors, c'est une très bonne question. On peut essayer de le faire soi-même. Je vais répondre de façon simple. À tous ces patrons qui ont essayé de recruter par eux-mêmes, je vais leur poser de répondre eux-mêmes à la question, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Si la réponse est oui, ne changez rien, continuez comme ça. Maintenant, si la réponse est non, si vous répondez en toute honnêteté, ben non, ça fonctionne pas parce que je n'arrive pas à conserver mon personnel ou je n'arrive pas à en recruter, ben c'est peut-être là où il faut faire appel à des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est quoi un bon recrutement? Un bon recrutement, je me souviens, j'ai connu un pâtissier qui était meilleur ouvrier de France, qui et là, est décédé depuis quelque temps, qui disait toujours, une entreprise, c'est comme un puzzle. Et chaque membre de l'équipe qui compose cette entreprise, c'est une pièce du puzzle. Et la pièce, elle doit s'imbriquer parfaitement dans le puzzle global. Et je trouve que c'était une bonne image parce que si on a un salarié qui ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise, à ce qu'attend l'entreprise d'elle, et qu'on ne crée pas l'osmose entre l'employeur et l'employé, c'est inévitablement voué à l'échec. La pièce, ça va coincer à un moment ou à un autre. Donc, autre chose, c'est que à force de changer de personnel, on le sait, le turnover coûte très cher aux entreprises. On estime, les analystes financiers ont fait des études là-dessus. On estime que, par exemple, pour changer un responsable dans une entreprise, ça équivaut à peu près entre 6 et 8 mois de salaire annuel de coût pour l'entreprise. Pourquoi ? Bah parce que déjà, un salarié s'en va, votre comptable, il va vous prendre des frais pour faire le solde tout compte. Un salarié arrive, votre comptable, il va vous prendre des frais pour faire la déclaration préalable à l'embauche, pour faire le contrat de travail. Ensuite, ce salarié nouvellement arrivé, il n'est pas tout de suite opérationnel. Pourquoi n'est-il pas tout de suite opérationnel? Parce que bien souvent, on lui dit, voilà, ton poste, c'est là. On le définit grosso modo parce qu'il n'y a pas de fiche de poste préétablie. Il faut qu'il devine lui-même. Ensuite, il est moins performant parce qu'on est obligé de le mettre en doublure parfois pour qu'il fasse ses armes, qu'il apprenne à connaître l'entreprise. Donc tout ça, ça peut coûter pour un responsable, c'est entre 6 et 8 mois de salaire. Pour un salarié, c'est entre 3 et 4 mois de salaire annuel. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez de serveur, on va prendre les choses de façon basique, hein. Vous changez de serveur, eh bien, ce serveur sera pas opérationnel tout de suite. Pourquoi n'est-il pas opérationnel tout de suite? Parce que, il sait pas forcément où est la console, il sait pas forcément où sont les outils, il sait pas forcément, il a pas l'habitude de la clientèle, de votre façon de travailler. Est-ce que vous travaillez avec un pad ou est-ce que vous travaillez encore avec des bons de commande manuels? Enfin, tout ça, c'est de la perte de productivité et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, au final, passer par un cabinet de recrutement, même s'il y a des honoraires, ça vous coûte moins cher que de changer de salarié toutes les semaines. Ensuite, l'erreur que font beaucoup d'employeurs, c'est, moi je vois ça, je suis mort de rire à chaque fois parce qu'on en voit plein sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn ou sur, peu importe. Le restaurant chez mamie recherche un serveur. D'accord, tu recherches un serveur, on est bien content de le savoir, mais qu'est-ce que tu lui offres à ce serveur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mentalité a changé, c'est l'entreprise recherche un employé, l'employé recherche une entreprise, mais l'employé a aussi le droit de choisir l'entreprise dans laquelle il va travailler. Et ça, c'est la nouveauté de notre époque. C'est avant, on cherchait du travail. D'abord, on n'avait pas trop de problèmes pour en trouver. C'était assez facile. Mais aujourd'hui, l'employeur doit aussi montrer patte blanche, il doit montrer qui il est, il doit séduire l'employé. Donc, ça, c'est ma vision des choses, et je pense que tous ceux qui sont dans cette vision réussissent assez bien, somme toute.
Oui, je rajouterais que c'est vrai que passer par un recrutement, c'est accéder à un vivier de talents plus large. Ouais. Moi, ça, je m'en suis aperçu à tes côtés. Lorsque on passe par avec un recruteur, il y a un réseau qui est beaucoup plus étendu, j'ai remarqué. Il y a plus de candidats, parce que j'ai vu que, par exemple, tu nous proposais des candidats avec des potentiels, et même des gens qui ne recherchaient pas d'emploi, en fait. Dans ce recrutement, on va dire, entre guillemets, chasseurs de tête, on allait chercher des gens qui étaient toujours en emploi et qui voulaient soit gagner un tout petit peu plus, soit avoir un confort de travail. Et donc, on allait et on pouvait s'adapter aux besoins, justement, de la recherche avec des gens qui collaient, mais à la perfection, à la recherche qu'on souhaitait. Et la deuxième petite chose, c'est que il y avait une expertise, c'est-à-dire que via notre expérience, via ton expérience, lorsque on passe par un recruteur, c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a cette expertise. On sait à quoi correspond le poste, comme tu le disais, et donc le poste, on va mettre la personne qui est vraiment, mais pile poil pour coller à ce poste. Donc c'est là le gros avantage. Et quand on dit ça coûte cher. Ben non, finalement, tu l'évoques tout à l'heure, oui, effectivement, non, ça ne coûte pas cher. Et finalement, comme on a la bonne personne qui va rester à son poste et va convenir, eh bien, elle va nous faire gagner automatiquement de l'argent. Et puis, voilà, ce temps parce que c'est quand même beaucoup d'énergie. Et souvent, moi, les gens me disent, oui, ça serait bien que vous veniez pour justement faire ce processus de recrutement parce qu'ils sont... C'est fastidieux, c'est fatigant. Et les patrons, aujourd'hui, en ont assez. C'est presque un métier supplémentaire, aujourd'hui. C'est-à-dire que le patron, il devient recruteur, il devient comptable, et ça fait beaucoup trop pour une seule et unique personne. Voilà.
Oui, parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Ils n'ont pas le temps.
Tout à fait.
Un recrutement, comment ça se passe, un recrutement, quand on passe avec une agence une agence spécialisée dans les recrutements? D'abord, on va sélectionner le candidat qui correspond au poste. On va faire un premier entretien avec lui où on va sélectionner le candidat par rapport à son vécu, à ses expériences, par rapport à ses savoir-faire, et puis on va également analyser le côté psychologique du candidat. Est-ce que psychologiquement il va s'adapter à l'entreprise pour laquelle on procède au recrutement? Et ça, ce côté-là, ça peut pas s'inventer. Il y a des techniques, il existe des techniques pour mesurer ça. Et c'est pas péjoratif, c'est pas méchant du tout ce que je vais dire. Mais il faut être formé pour. C'est pas un responsable d'entreprise qui peut être un très bon cuisinier, qui peut être un très bon maître d'hôtel, qui peut avoir plein de qualités. Mais qui n'a pas, et inévitablement, personne ne les a, qui n'a pas toutes les compétences nécessaires pour procéder à un recrutement et créer cette osmose qu'il doit y avoir entre le salarié et l'entreprise. Donc ça fait partie des avantages. C'est recruter, c'est un métier.
Oui.
Voilà, c'est aussi simple que ça.
Oui, mais je suis content que tu le dises parce que c'est vrai que il y a plein de métiers, de sous-métiers, on va dire. C'est pas péjoratif que de dire sous-métiers, qui sont des métiers comme ça, qui sont vraiment des métiers. On n'a pas l'impression, parce qu'on va se dire, oui, recruteur, tout le monde est recruteur, finalement, tout le monde est chasseur de tête. Non, c'est un métier à plein temps. C'est quelque chose qu'il faut exercer à plein temps. On peut pas avoir un fichier clientèle, on peut pas avoir des contacts comme ça du jour au lendemain. Il faut les avoir travaillés sur du long terme. Il faut les avoir gardés. Comme ça, sur un long terme. Et c'est, pour moi, il me semble, en tous les cas, c'est le meilleur moyen d'améliorer, en tous les cas, son image de marque. Une entreprise a tout intérêt à faire travailler un recruteur, rien que pour son image, pour la réputation de son entreprise, et se donner une belle image de professionnel. Aujourd'hui, on a malheureusement, comme ça se faisait, ça se fait de moins en moins, mais moi ce que j'appellerais des patrons de l'ancien temps avec de la gouaille, des gens qui sont pas finaux, etc. Mais ça, ça n'attire plus. Ça a eu peut-être.
Ah oui, mais c'est fini ça.
Mais c'est fini. Aujourd'hui, on a besoin de professionnels, de gens qui ont la tête sur les épaules, des gens où on se dit, voilà, je vais venir travailler avec ce monsieur, mais ce monsieur, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ben voilà, il m'écoute. Il va être humble. C'est quelqu'un qui va me donner des consignes claires et précises. Ça sera pas des consignes qui changent toutes les 5 minutes. Parce que ça, c'est un tue au travail, hein. Toutes les 5 minutes, on donne une directive, le lendemain, la directive a changé, c'est une autre directive. Et on y va comme ça sur 30 jours. C'est épuisant pour tout le monde. Ensuite, il y a vraiment un plan de carrière. Parce qu'aujourd'hui, oui, on veut un serveur, point. Ben, c'est un serveur, hein, on n'a pas besoin d'un bac plus 2. Eh ben, peut-être qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que le métier de serveur, c'est un métier à part entière. Il est noble, il est très bien, il n'est pas si évident que ça. Et qu'il faudrait peut-être qu'on ait vraiment de plus en plus affaire à des professionnels. S'ils ne le sont pas, on peut aussi les former, parce que la formation sert aussi à ça. Quand les gens me disent « oui, mais il n'est pas formé, il n'est pas du métier », eh bien, passons par la formation, qui souvent est prise en charge par les OPCO. Il ne faut pas l'oublier. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, on a tous les outils pour bien fonctionner. Simplement, effectivement, si on ne veut pas les mettre en... Si on ne veut pas utiliser ces outils, eh bien, on fera, comme beaucoup de gens disent, c'est le bordel, plus personne ne veut travailler, les gens sont feignants, etc., etc. Oui, mais ça, tout ça, c'est simplement notre propre incompétence qu'on jette au visage des autres, c'est tout. C'est la nôtre, c'est un miroir. Et il faudrait justement se poser les bonnes questions.
Voilà. Non, mais tu as raison. Et moi, j'aime beaucoup, je vais parler d'expériences qui fonctionnent. J'aime beaucoup un mouvement de fond qu'on constate en ce moment, quand on est, comme nous, des observateurs du métier, des observateurs assidus du métier, je vais dire. Un mouvement de fond qui a été lancé, je crois, par Éric Guérin, qui est un chef 3 étoiles au guide Michelin, qui a obtenu d'ailleurs le premier label Marianne qui a été décerné en France, le label Marianne qui s'adresse à des gens qui ont une politique sociale, enfin des entreprises qui ont une politique sociale avancée. Et lui, il a pris l'habitude de mettre en scène ses équipes. Alors, il les met en scène et en valeur sur les réseaux sociaux. Et je constate que ça se développe de plus en plus, ça. Alors, effectivement, ça commence par généralement les étoiles et Michelin. J'ai vu dernièrement Franck Putelat qui fait la même chose. Il y a Michel Saran qui fait la même chose. Enfin, c'est un mouvement qui se développe de plus en plus, où on apprend à mettre les équipes en valeur, en fonction dans un contexte qui valorise l'entreprise. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met toute l'équipe en valeur, ben ça valorise également l'entreprise. Donc, j'aime beaucoup ce mouvement de fond. Je pense qu'il faudrait que ça se démocratise de plus en plus et que les employeurs arrêtent de penser. On va croire que je tape sur les employeurs. Ce qui est faux, je l'ai été moi-même pendant plus de 40 ans, donc je sais à peu près de quoi je parle. Les employeurs doivent arriver à changer de mentalité, à faire... non pas à considérer leurs employés comme des employés, mais à les considérer comme des collaborateurs. Et ça change la philosophie. Quand on considère quelqu'un avec qui on travaille comme un collaborateur plutôt que comme un employé, la notion de dépendance hiérarchique évolue. Et on fait participer nos collaborateurs à l'avancée de l'entreprise. On peut faire participer un cuisinier à la mise au point d'une nouvelle recette. On peut faire participer un serveur à la mise en place d'une nouvelle carcasse pour la salle du restaurant. On peut les faire participer. Pourquoi ? Moi, je pose une question simple. Pourquoi, au nom de quoi, les employeurs détiendraient-ils tous le savoir absolu et tous les autres seraient-ils des ânes bâtés incapables de réfléchir ? Ben, quand on aura répondu à cette question, je pense qu'on aura répondu à la plus grosse problématique.
Ouais, mais Oui, mais justement, c'est bien que tu l'évoques. D'ailleurs, je vais évoquer autre chose, mais qui reste dans la même sphère. Effectivement, on n'est pas pour les patrons contre les patrons, pour les employés contre les employés. C'est totalement, je veux dire, obsolète de parler de cette manière-là. Je le vois parfois parce que nous-mêmes, ben, on fait des podcasts, on fait des petites choses, et parfois, les gens, y a des gens qui commentent. Donc, il y a d'ailleurs, chaque fois, heureusement, on a beaucoup de gens qui commentent positivement, qui sont très contents qu'on leur ait apporté des solutions. Et puis, il y a des gens qui nous insultent. Il y a des gens qui sont virulents. Il y a des gens qui nous traitent de menteurs, etc. Bon. J'aimerais déjà dire à tous ces gens-là, si vous dites tout ceci, regardez-vous vraiment, parce que je pense que là, vous prenez quelque chose qui s'appelle l'effet miroir. Vous êtes en train de vous regarder. Vous êtes face à vos propres contradictions, vous êtes face à vos propres peurs, vous êtes face à, j'allais dire, votre propre malheur intérieur. On n'est pas là, nous, on n'est pas des gens qui avons toutes les solutions. On apporte notre pierre à l'édifice, comme le petit colibri qui vient et qui apporte sa petite goutte d'eau dans ce grand brasier. Ça changera pas les choses, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait, nous, au moins, on fait notre travail, on fait notre taf et on essaye d'aider. On pourrait très bien ne pas être là en train de faire des podcasts et on a décidé de le faire. D'accord? On a décidé d'être devant tout le monde et de parler au moins de manière claire en essayant de trouver des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est justement bourré de guerre, bourré d'agressivité, etc. Je pense que ce microcosme qui est aussi la restauration, ce métier, il doit maintenant revenir vers une certaine paix, une tranquillité. Et c'est pour ça que quand on dit, il faut que le patron se remette en cause, il faut que le salarié lui aussi se remette en cause, et ainsi on va pouvoir créer un pont entre les deux et on pourra travailler sereinement. Effectivement, quand tu dis, il faudrait qu'on ait des petits podcasts, des petites choses comme ça dans une entreprise. Bien sûr que c'est valorisant. Bien sûr que ça pousse à faire mieux chaque semaine. Une belle petite tarte, je sais pas, je dirais une bêtise, une tarte au citron avec un petit combava dessus, etc. Et puis la semaine d'après, on fait autre chose. Et puis on valorise ses équipes en salle, etc. Mais bien évidemment. Alors, ça demande du temps, c'est vrai. Ça demande du temps, peut-être même. Ça demande une personne, parce que ça aussi, c'est un métier, être derrière un micro. Et croyez-moi, j'ai fait un tout petit peu de pub récemment, je me suis rendu compte du travail que ça demande. C'est énorme le travail. Souvent, ce sont des petits métiers comme ça qu'on voit pas. Tous ceux qui font la comptabilité, tous ceux qui font, en fait, on va dire entre guillemets, pour faire simple, les paperasses. Oh, c'est simple, finalement, c'est simple. Puis quand on le fait soi-même, on se dit, bah, finalement, ça prend beaucoup de temps. C'est pas que c'est compliqué en soi, mais ça vous prend, c'est vraiment chronophage. Et une fois que vous avez fini, vous dites, bah, la journée est terminée. Donc tout ça, ce sont des petits métiers. Il faut que, si on veut un bon recrutement, si on veut qu'une entreprise tourne bien, il faut se poser un petit peu. Il faut beaucoup de paix, de tranquillité, un peu d'harmonie dans tout ça. De bienveillance, et je pense que c'est aussi, ça fait partie des clés qui font qu'à un moment donné, on a envie d'aller au travail, on a envie de vraiment se défoncer pour son patron, on a envie de tout lui donner, parce que voilà, il y a plein de petits points comme ça qui ont été respectés, comme on l'a dit, on va le répéter, et puis je pense qu'on va enfoncer le clou. Mais c'est ça, c'est la reconnaissance, c'est la communication, c'est l'empathie. L'humilité, etc. Et je pourrais en sortir plein des mots comme ça. C'est ça qu'il faut introduire dans les entreprises. Et je vous assure que le recruteur aujourd'hui, et si vous passez par ce métier de recruteur, eh bien, c'est ça, que va s'acharner à faire le recruteur, à vous apporter des gens qui vont correspondre à l'état d'esprit que vous allez créer. Voilà. J'ai peut-être été un peu long, mais bon, voilà, c'est ça.
Non,
Tout est dit.
c'est bien résumé. Je suis complètement d'accord avec toi.
J'ai une question,
Alors,
messieurs, pour vous.
ceci dit, je pourrais ajouter juste un petit mot. Les employeurs ont beaucoup d'excuses. Je veux dire, quand on a la tête dans le guidon, Christophe, toi et moi, on le sait pertinemment, dans ce métier-là, quand on a la tête dans le guidon en permanence, on n'a pas toujours les nerfs suffisamment détendus, suffisamment reposés pour réfléchir à la philosophie. La philosophie, c'est quelque chose qui nous passe assez loin de la tête quand on est en permanence dans le gaz. Quand on est dans le coup de feu, on n'a pas forcément envie de réfléchir. Moi, je me souviens, quand j'étais chef de cuisine, j'avais mis une pancarte au-dessus de l'entrée de ma cuisine. C'était marqué « Ici s'arrête la démocratie, ici commence la dictature ». C'était dit avec humour, mais il n'en demeure pas moins que c'était quand même assez proche de la réalité. Je sais très bien que quand on est un patron, chef d'entreprise, et qu'en même temps on est chef de cuisine, on est comme le chirurgien dans son laboratoire. On dit scalpel, on n'a pas le temps de dire « s'il te plaît, est-ce que tu veux bien avoir l'obligeance d'avoir l'amabilité de me passer le scalpel ?» Le patient, il est mort pendant ce temps-là. Nous, si on adopte les mêmes principes, notre patient, il n'est pas mort, à Dieu ne plaise, mais il attend. Il attend et il est mécontent. Donc, je veux dire, les propriétaires d'entreprises, les propriétaires de restaurants ont aussi beaucoup d'excuses. Et c'est également une raison de plus pour faire appel à des professionnels. C'est une raison de plus pour faire appel à un cabinet de recrutement.
Oui, et puis c'est surtout avoir cet œil qui est extérieur. Tu l'as souligné, on a tous eu des moments où on avait la tête dans le guidon, et Xav peut en parler avec moi, hein, Xavier, avec son œil extérieur, il venait et tranquillement, il me disait quelque chose, et automatiquement, cet œil extérieur, si moi je sais l'écouter, parce que là, il faut nous être aussi, savoir écouter, ça s'apprend. Parce que on est un peu dans, on est pressé, on est dans le vif du sujet. On pense que même se poser une petite minute pour réfléchir, on va perdre du temps. Puis finalement, on écoute, on prend note, on rectifie et ça roule comme sur des roulettes. Donc l'important c'est ça et ça s'apprend. Ça pour le coup. Même si au départ on a un petit peu de difficulté, ça s'apprend. Ce qui s'apprend aussi, et c'est pour ça que repasser par un recruteur, c'est aussi apprendre à savoir déléguer. Et ça, c'est peut-être, ça fera même peut-être un podcast à venir. C'est presque une maladie pour les patrons. Et là, pour le coup, j'allais leur dire, j'ai ni à les excuser ni à ne pas les excuser. C'est que on ne délègue pas. On a l'impression que on a tout ce qui repose sur nous, c'est notre image de marque, et on ne peut pas déléguer, parce que la moindre erreur nous sera imputée, et donc on ne veut pas d'erreur. Sauf qu'on peut se détendre aussi, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on peut faire des erreurs, on s'en excuse, on essaye de faire bien, et puis on délègue. Ça m'est arrivé d'avoir une béchamel plutôt, qui avait été mal réalisée. Bon, et ben je l'ai refait faire parce qu'elle était mal réalisée par un apprenti. On l'a refait faire. Alors on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. À la fin, il est là aussi pour apprendre. Donc il faut aussi ce temps de l'apprentissage, ce temps de savoir faire des choses et surtout d'apprendre à savoir déléguer. Dès qu'on délègue, on prend du recul et on a une vision qui est un tout petit peu différente. Sinon, on sera toujours la tête dans le guidon, on avancera, et on va vivre mal, parce que combien sont de nos collègues patrons qui sont aujourd'hui, qui ont eu des crises cardiaques, qui ont eu des infarctus, qui sont décédés, etc. C'est quand même pas le but, c'est pas de mourir précocement, je veux dire, c'est pas le but. Hein.
Donc, non.
Xav, tu voulais parler, tu avais quelque chose à dire.
Oui, j'attendais, c'est passionnant. J'espère que ceux qui nous écoutent le trouvent aussi. Vous avez parlé des avantages pour les patrons. J'aimerais que vous parliez des avantages pour les salariés à faire appel à un cabinet de recrutement. Les salariés, bien souvent, ils voient des annonces, effectivement, comme Didier le disait tout à l'heure, sur les réseaux, ils appellent directement l'entreprise. Mais quels sont les avantages pour les salariés à faire appel à un cabinet de recrutement, et j'allais dire, comme le nôtre?
Alors, avant que Didier réponde, parce que c'est vraiment le terrain de prédilection de Didier, Je dirais que les salariés ne sont pas au courant. Didier va dire quel est l'avantage pour un salarié de passer par un recruteur. Mais ils ne savent pas et on ne les a pas formés. Presque, il faudrait que lors du CAP, on nous apprenne ce qu'est un recruteur, d'être dans les mains d'un recruteur et de savoir quels sont les avantages. On va voir qu'un recruteur dans le football, il n'y a pas un footballeur qui passe pas par un recruteur. Il y a un recruteur, il y a des managers, il y a des gens qui s'occupent de leur communication, etc. Et eux, ça va leur paraître tout à fait logique et normal d'avoir tout ce staff autour d'eux. Alors on va dire oui, mais eux, ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais peu importe. Et donc, quels sont en fait les avantages? Didier va le dire, mais il faudrait peut-être que dès à présent, et peut-être que ce podcast va le servir aux salariés, de se dire, faites-vous représenter par des professionnels. Pourquoi, Didier?
Ah, mais tu as tout à fait raison. Alors, faut pas rêver, on leur proposera jamais des salaires équivalents à un joueur de foot. On a le droit de rêver, mais il y a peu de chances que ça se réalise. Par contre, l'avantage, c'est que nous, on va leur demander aux salariés, on va sonder leurs désirs les plus profonds. Est-ce que leurs objectifs, c'est d'avoir une vie de famille? Est-ce que leurs objectifs, c'est d'avoir un développement professionnel? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller, je vais prendre un exemple simple, est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller tous les jeudis soirs à la salle de sport de 19h à 21h? Tout ça, on va le prendre en considération et on va trouver l'entreprise qui va leur permettre de réaliser leurs désirs et leurs besoins, je veux dire. Donc, en réalité, c'est nous, on va créer le lien entre ce que désire vraiment le salarié, quels sont ses besoins, alors à la fois en termes de rémunération, bien entendu, mais c'est rarement, moi quand je discute avec des candidats, c'est rarement la préoccupation première. Et j'ai posé la question il y a quelque temps à des salariés dans une entreprise, je leur ai demandé si on te proposait un emploi mieux payé, mais où tu n'as pas les mêmes jours de repos et où tu n'as pas les mêmes avantages, qu'est-ce que tu ferais? Tous, ils m'ont répondu, mais on n'y va pas. C'est aussi simple que ça. Donc, arrêtons de se polariser uniquement sur le salaire. Ça n'est pas la première préoccupation des salariés. Donc, on va créer ce lien entre les besoins du salarié et l'entreprise, mais également la mentalité de l'entreprise, parce qu'on va analyser la mentalité du salarié et on va analyser la mentalité de l'entreprise et essayer de trouver le bon mariage. Donc, et c'est pas évident. Le salarié tout seul peut difficilement, comment ça se passe? Quand il cherche un emploi, il regarde une annonce et puis il va y aller. Et puis il va se rendre compte au bout de 3 semaines ou 1 mois, il dit, non, finalement, je me sens pas bien du tout dans cette entreprise-là. Ça correspond pas du tout à mes valeurs. Ça correspond pas du tout à mes principes. Je me casse. Qui a perdu? Les deux ont perdu. L'entreprise a perdu parce qu'elle n'a pas réussi à conserver son salarié et le salarié a perdu parce que il a cru trouver quelque chose qui lui correspondait et au final ça lui correspond pas. Et ça c'est un schéma qu'on trouve de façon récurrente. Donc le travail du recruteur, tu l'as très bien dit Christophe, on va également représenter le salarié, on va être le commercial du salarié. Mais on va également être le commercial de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est le lien entre les salariés et leurs besoins et l'entreprise et ses exigences. Donc, et il faut arriver à trouver le juste milieu pour que et l'un et l'autre soient gagnants. En réalité, le recruteur, si je devais résumer ça en une phrase, le recruteur, c'est celui qui va créer un lien gagnant-gagnant, un win-win, entre le salarié et l'entreprise.
Oui, mais en plus de ça, il faut bien comprendre que le recruteur, et ça, moi, j'en ai pris conscience au fur et à mesure en devenant moi-même recruteur, c'est que nous préparons chaque entretien. C'est-à-dire que c'est un gagnant-gagnant. Nous préparons d'un côté, c'est-à-dire du côté du patronat, ce qu'il désire, ce qu'il veut. Et là, dans mon cas, c'était le salaire qu'il allait lui donner aussi. Et puis de l'autre côté, je préparais en disant, voilà, je vais préparer donc ce travail, parce qu'un salarié n'est jamais vraiment préparé. Il vient dans un recrutement, il est, c'est comme si c'était tout le temps la première fois. Il n'a jamais même tiré profit parce qu'il ne s'est pas intéressé à ça. Il n'a pas vu l'intérêt de préparer. Alors, c'est vrai qu'il prépare les CV. Souvent, les CV sont tronqués. Il va se vendre. Moi, je l'ai vu en direct, une personne qui dit « Vous voulez combien ?» Le patron pose la question « Vous voulez combien ?» Le salarié dit « Ben, moi, je veux 2400 euros. » Le patron, il a dit « Je vais vous donner 1400. » Bon, ben, d'accord. Ça s'est passé aussi rapidement que ça.
Ouais.
J'ai interrompu les deux, j'ai pris le patron à part, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit « Bah, 1400, ça passe, c'est génial, ça me coûte pas très cher. » J'ai dit « Oui, mais ce garçon-là, il vaut beaucoup plus. Ce garçon-là, il travaille 6 jours sur 7. Attendez, il est jamais absent. C'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir fonder des fondements solides. Vous donnez 1400 euros. 1000 euros de moins. Bon. Et quand j'ai parlé après au salarié, il m'a dit, bah oui, mais j'ai vu qu'elle n'allait pas m'embaucher, donc bon, bah, je vais commencer à 1400 et on verra. On va voir quoi. C'est 1400, c'est pas possible. Tu travailles 6 jours sur 7. Tu fais presque entre 10 et 11 heures par jour. Enfin, de quoi on est en train de parler? Tu sais monter une carte. Tu as travaillé dans des étoilés. Tu es autonome. Et en te prenant, il évite peut-être d'avoir 3 personnes. Donc finalement, quel est l'intérêt de baisser ton salaire? Maintenant, bah, comme il est passé par moi, j'ai expliqué au patron et on est tombé sur un... Alors, on n'est pas tombé sur... On était à peu près à 2100, voilà, avec des primes sur objectif. Mais voilà,
ouais,
ça devient correct. Ça devient correct. Et à partir de ce moment-là, voilà. Mais moi, étant beaucoup plus professionnel et ayant préparé les deux parties, je peux, comme tu l'as dit, win-win, c'est-à-dire arriver à créer quelque chose, ce pont, en fait, que je disais tout à l'heure, qui va permettre de se rejoindre et donc, voilà, de créer une certaine harmonie, de se dire, OK, on est prêt à travailler ensemble et on va maintenant pouvoir travailler sereinement et longtemps ensemble. Donc, c'est le recruteur... Et cet avocat et ce commercial est en fait la personne qui aura de toute façon, de par son métier, préparé cette intervention. Alors qu'on le sait très bien, que ce soit le patronat que le salariat, des deux côtés, on a l'impression que c'est un peu comme on attend le coup de foudre. Voilà, on attend le coup de foudre. Waouh, là, j'ai le salarié qu'il fallait. Il est magnifique. C'est le coup de foudre. Et c'est l'amour éternel. Et à vitam aeternam, oui, comme ça, pendant des années et des années.
Est-ce qu'on saura le garder?
Alors, est-ce qu'on saura le garder? C'est petit bonheur la chance. Et le petit bonheur la chance, c'est absolument pas professionnel. Je pense que il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qui font partie, on va dire, du miraculeux, de l'exceptionnel, la chance qui nous a souri de tomber sur un bon profil. Mais ceci n'exclut absolument pas la préparation, etc., etc. D'accord ? Voilà, ça, c'était un petit truc que je voulais...
Moi, je vois un autre avantage pour les salariés. C'est que en fait, on est aussi un organisme de formation. Donc là, vous venez d'en parler, du management. Quand on fait ce recrutement, finalement, on va aussi garantir aux salariés que les conditions d'accueil sont bien présentes. Et c'est vrai qu'on est souvent sollicité par les entreprises pour les formations management. Le salarié va arriver et si nous, on détecte que l'entreprise a des lacunes ou même des besoins identifiés et qu'elles ont clairement et ouvertement dites, eh bien, nous, on va intervenir aussi après pour former les patrons, former les équipes au management. C'est juste un exemple. En fait, on a bien d'autres formations pour accompagner les entreprises, pour améliorer la qualité de vie au travail en règle générale.
Et c'est valable aussi pour le patron, parce que le patron, lui, il sait que même si un salarié n'a pas les compétences requises au départ, toutes les compétences requises, qu'il lui manque certaines compétences, la formation va venir s'ajouter. Nous allons pouvoir faire cette formation et on va monter en grade, on va dire, on va monter en compétences ce salarié. Donc, avantage pour les deux.
C'est ça, je suis complètement d'accord.
Voilà. Donc, voyez, des solutions, il en existe.
Bien sûr qu'il en existe. Mais je reviens un tout petit peu parce que arrêtez, et souvent les gens arrêtez de commenter. Je sais que ça, c'est dans l'air du temps. On commente méchamment. On balance des méchancetés. Ça ne sert à rien, ça ne prouve simplement vous en êtes vous. Et ça, c'est important. C'est important, d'accord? Parce qu'on a reçu certaines fois, c'est un petit peu dommage. On en rigole, nous, ça va pas nous perturber plus que ça. Mais c'est un peu dommage. On entend quelqu'un qui nous demande même de nous justifier et même que Didier se justifie de ses compétences. Didier, il n'a plus à justifier quoi que ce soit. Je pense que on a 20 ans, on a 30 ans, mais à son âge, avec tout ce qu'il a fait, le parcours, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'il a fait, donc ça suffit. Il n'y a plus besoin de tirer là sur cette personne. Allez sur moi, si vous voulez, mais c'est un peu déjà trop tard aussi. C'est bon.
Maintenant, non, mais si ça leur fait plaisir, c'est pas grave.
Oui, mais justement, non, je pense que ça leur fait pas plaisir et ce n'est pas constructif. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et on avance comme ça et on devient solidaire. Par les temps qui courent, il faut être solidaire. Si on ne veut pas prendre les conseils de quelqu'un, c'est fabuleux, on est dans une démocratie, eh ben on le prend pas. Voilà. Mais on perd pas son temps à mettre des écrits qui font perdre du temps, j'allais dire, déjà la personne qui le fait, elle perd du temps, elle fatigue, elle se sentira pas mieux, demain elle voudra réécrire et ainsi de suite, mais finalement, elle n'apportera pas de solution. Si on a des choses à dire, apportons des solutions, apportons notre petite pierre à l'édifice, et ça c'est important, et je tenais à le dire aujourd'hui, parce que je pense que c'est très très important, surtout quand on parle de recrutement, arrêtons de se critiquer, je vous assure, nous sommes des professionnels, nous savons, nous sommes en contact, j'allais dire, des restaurateurs, des salariés au quotidien. D'accord? Quand moi je vais en formation, je suis entre 10, 12, des fois 14 heures avec les salariés et je travaille avec eux. Donc, arrêtez et arrêtons de croire que je ne sais pas. Je suis obligé, j'allais dire, je suis obligé d'être compétent. D'accord? Par toutes ces années, on est obligé de se modifier et que ça soit Didier, Xav ou moi, régulièrement nous nous remettons en cause et on retravaille de concert et surtout on se regarde pas le nombril. On va pour le bien-être des deux parties qui nous concernent, c'est-à-dire le patronat et le salarié. Voilà.
Très bien.
C'était mon petit coup
de gueule.
Merci
vous. Oui, voilà. Je vois ça. Allez.
C'est bien. Ça t'a fait du bien.
Eh ben écoute, je suis bien. Je crois que là, la journée peut bien se passer.
Bon, ben, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez des demandes en recrutement. Et puis aussi, si vous êtes salarié, sachez qu'on existe et qu'on peut vous accompagner également. Merci Didier, merci Christophe. On se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt.
Merci Xavier, à bientôt. Christophe, et à très bientôt.